Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denault, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode où il sera question d'Israël dans le plan de Dieu. On a eu une discussion il n'y a pas si longtemps, quelques mois, sur qui touchait à Israël. Avec M. Despin, Gilles Despin, qui a une perspective un peu plus dispensationaliste, même s'il n'aime pas trop l'étiquette sur la question. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de m'entretenir avec M. Sylvain Romerowski, qui est professeur émérite multidisciplinaire ou généraliste à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Bonjour, M. Romerowski.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. D'ailleurs, depuis que j'ai été étudiant à la faculté, on remonte. Moi, j'ai commencé mes études en 2001 à Montréal. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de lire vos textes, mais c'est la première fois que je peux m'entretenir avec vous. Je le considère comme un privilège. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Nogent-sur-Marne, j'ai vérifié sur la map parce que j'avais souvent entendu le nom, mais je ne savais pas que c'est en banlieue de Paris, c'est ça?
C'est en banlieue de Paris, à 20 km du centre de Paris.
Très bien, très très bien. On vous doit plusieurs œuvres dans la francophonie, dont la Bible Semeur, peut-être pas la traduction, mais je crois les commentaires et les introductions à cette Bible?
Et la traduction.
La traduction, OK.
Aussi, donc... J'ai eu une part importante pour la traduction de l'Ancien Testament et j'ai fait partie aussi du comité de traduction du Nouveau Testament.
Bien, on vous remercie pour cela et pour plusieurs de vos contributions dont on pourra parler en fin d'émission. Bien, j'aimerais d'abord vous demander si vous pourriez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas.
Voilà, eh bien... Alors, je me suis converti dans ma jeunesse, je dirais, et j'ai fait des études à l'Institut biblique de Nogent et puis ensuite à la faculté de théologie de Westminster aux États-Unis. Après cela, j'ai été assistant dans une église baptiste à Mulhouse, en Alsace. Alors, j'ai aussi fait des études avant ça de linguistique générale à Paris, ce qui a préparé donc mon travail de traduction pour la Bible du Semeur. Mm-hmm. Donc, nous sommes restés 7 années à l'église de Mulhouse. Ensuite, j'ai travaillé pour les éditions Sator, donc sur la traduction de la Bible du Semeur, et aussi pour la rédaction d'articles qui ont plus tard paru dans le Grand Dictionnaire de la Bible, publié par Excelsis. Et puis, j'ai été embauché comme professeur à l'Institut biblique de Nogent en 91. Et donc, je suis à la retraite depuis cette année scolaire.
D'accord. Ben merci pour ce survol. Aujourd'hui, je vous ai invité pour qu'on puisse parler d'Israël. C'est mon ami Matt Moury qui m'a recommandé un de vos articles qui avait paru dans la revue Réformée. Ça date déjà là, de plus d'une vingtaine d'années. Vous m'avez envoyé une version un peu plus complète que je vais mettre les liens pour ce qui est disponible sur la toile, c'est pour les auditeurs qui voudraient retrouver ces articles-là. Donc, c'est à partir de ces textes que j'ai préparé des questions pour discuter avec vous aujourd'hui. Avant de se lancer dans le sujet, cependant, ben, je voudrais rappeler que cette émission est soutenue par les auditeurs. Si vous avez à cœur de faire une contribution, vous pouvez devenir partenaire ponctuel ou mensuel. Il y a un lien dans la description pour le faire. Si vous êtes au Canada, c'est même déductible d'impôts. Et notre sponsor Publication Chrétienne vous recommande cette semaine un livre qui donc est en lien avec notre sujet du docteur Alfred Edersheim. Ça date du 19e siècle ça avait été écrit en anglais à l'origine, mais maintenant on l'a en français. Je ne sais pas depuis quand, mais c'est M. Romerowski qui me disait donc qu'il l'avait déjà en anglais sans savoir qu'il existait en français. Le titre, La société juive à l'époque de Jésus-Christ. Donc, cet ouvrage vous permettra de réfléchir et de comprendre le Nouveau Testament dans le contexte juif. Il y a probablement, avec le décalage historique, des choses qui nous échappent, et c'est bon de remettre les choses en contexte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet ouvrage, M. Romerowski?
Alors, en fait, je l'ai très peu consulté. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais... Je n'ai pas lu tout ce que j'ai dans ma bibliothèque.
Comme la plupart des...
Parfois, je consulte quand j'en ai besoin, mais je ne l'ai pas lu de manière suivie.
Ouais. Alors, on va donc discuter d'Israël, et c'est un sujet qui peut être délicat pour différentes raisons. Il y a un conflit en ce moment qui touche cette nation, mais ce n'est pas de l'Israël actuel et dans le contexte moderne et médiatique et idéologique qui divise les uns et les autres dont on veut en parler, mais on veut revenir à des fondements sur la base des Écritures. Qui vont peut-être nous aider à faire des applications pour le contexte moderne, mais on va laisser cela à chacun de tirer de justes conclusions à partir d'une, on pourrait dire, une israélologie, une doctrine biblique d'Israël, en comparant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament le plan de Dieu à l'égard de ce peuple. Donc voilà, ça peut nous éclairer pour aujourd'hui. Une autre raison pourquoi ça peut être une question délicate, ben c'est en raison de tout le dans l'histoire après les Écritures, ce qui concerne ce peuple et l'antisémitisme dont il a été l'objet jusqu'à récemment dans les dont il est encore l'objet. Alors, ce qui fait que dès qu'on touche à Israël, c'est toujours controversé au sein des croyants. Mais une autre raison, c'est que il est impossible de parler d'Israël et d'avoir une unanimité. On retrouve au sein des chrétiens différentes visions, différentes théologies d'Israël. Et j'aimerais commencer par là, professeur Romerowski, si vous pouvez nous donner un peu un panorama des différentes visions qu'on retrouve au sein de l'Église chrétienne, et en particulier chez les évangéliques, mais peut-être aussi dans d'autres confessions. Comment est-ce qu'on interprète Israël chez les chrétiens?
Alors, j'ai surtout parlé des conceptions parmi les évangéliques. Donc, on peut commencer avec la théologie de l'Alliance, donc, qui est la théologie des réformés, évangéliques. La théologie de l'Alliance, il y a essentiellement continuité entre Israël et l'Église. Je lisais tout récemment un commentaire de Calvin sur un livre de l'Ancien Testament, et quand il parle du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament, il dit l'Église. Pour lui, c'était déjà l'Église. Ce qui est nouveau alors avec la nouvelle alliance, c'est que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, incorpore des gens de tous les peuples. Pour les théologiens de l'alliance, on peut entrer dans le peuple de Dieu par la conversion, mais comme c'était le cas pour le peuple d'Israël, on entre dans le peuple de Dieu par la naissance. Et donc, les enfants des croyants sont considérés comme faisant partie du peuple de Dieu, et c'est pour cela qu'on baptise les enfants des croyants, le baptême étant considéré comme l'équivalent de la circoncision, donc l'équivalent sous la Nouvelle Alliance de la circoncision de l'ancienne alliance. Donc on insiste surtout sur la continuité entre Israël et l'Église. Et alors de même que bien Israël était composé d'Israélites convertis, mais aussi de gens qui ne l'étaient pas, eh bien dans l'Église, il peut y avoir à côté des convertis des gens qui ne le sont pas, dans la mesure où, entre autres, les enfants des croyants sont considérés comme membres de l'Église. Alors, avec certaines nuances, parce que dans certaines églises réformées, on pratique la discipline quand même. Si, devenus adultes, les enfants des croyants ne participent plus à la vie de l'Église. Mais ce n'est pas toujours le cas. À l'opposé, vous avez le dispensationalisme. Alors, si la théologie de l'Alliance met l'accent sur la continuité entre Israël et l'Église, le dispensationalisme, au contraire, voit une discontinuité, au point de considérer qu'il y a deux peuples de Dieu. Israël est l'un de ces peuples, l'Église est un autre peuple. Et alors, il y a une partie de la Bible qui ne concerne qu'Israël, et puis une autre qui concerne l'Église. En particulier, les prophéties de l'Ancien Testament ne concernent qu'Israël, et même dans la forme extrême de dispensationalisme qui est en train de passer, certains passages du Nouveau Testament, comme le sermon sur la montagne, c'est pour le royaume de Dieu, pour Israël, mais ce n'est pas pour l'Église. Bon, ceci dit, ça c'est une position extrême. Mais alors, on considère que, donc, parce que le peuple juif a rejeté Jésus, les promesses des prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas pu se réaliser à ce moment-là, et s'est ouvert une parenthèse qui n'était pas prévue dans le programme des prophètes de l'Ancien Testament, la parenthèse du temps de l'Église. Et puis, cette parenthèse doit se refermer un jour, et à ce moment-là, en tout cas, le peuple, enfin, Dieu va à nouveau travailler avec le peuple d'Israël, et notamment, donc, les prophéties de l'Ancien Testament vont se réaliser dans un millénium, qui est un millénium juif. Alors, il y a des formes atténuées de cette position chez des prémillénaristes qui ne sont pas nécessairement dispensationalistes et qui n'auraient pas la théorie des deux peuples de Dieu. Alors, entre les deux, ce qui est ma position, c'est d'affirmer à la fois une continuité entre Israël et l'Église, et une discontinuité. Continuité parce que l'Église est née d'Israël. D'abord, les premiers chrétiens étaient juifs, et puis, continuité dans la mesure où l'Église s'est formée à partir d'Israël, mais comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament, un tri devait s'opérer à l'intérieur d'Israël. Et à partir de la venue de Jésus, les Israélites qui rejettent le Messie sont s'excluent eux-mêmes du peuple de Dieu. Par contre, des non-juifs qui mettent leur foi dans le Messie d'Israël, eh bien, sont incorporés au peuple de Dieu. Et donc, on peut dire que l'Église, c'est Israël, mais Israël dont on a retranché les Israélites incrédules et auquel on a incorporé les non-juifs qui mettent leur foi en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est le sens de l'image de l'olivier dans Romains 11. Et donc, j'insiste sur un point, parce qu'il y a souvent un malentendu à cet égard. Il ne s'agit pas de dire que l'Église a remplacé Israël. Comme si on prenait les prophéties de l'Ancien Testament, et là où il y a des promesses de salut pour Israël, on remplaçait mentalement Israël par l'Église. Non, c'est pas ça. C'est que l'Église, c'est Israël, mais Israël dont on a retranché les Israélites incrédules et auxquels on a greffé, incorporé les non-juifs qui croient. Donc, comme le dit Henri Blocher, ce n'est pas que l'Église remplace Israël, mais c'est que les croyants non-juifs remplacent les incrédules juifs à l'intérieur d'Israël, donc du peuple de Dieu. Sur la relation entre maintenant le peuple de l'Ancienne Alliance et le peuple de la Nouvelle Alliance, alors contrairement aux théologiens de l'Alliance, je ne dirais pas que le peuple d'Israël de l'Ancienne Alliance, c'est déjà l'Église. À mon avis, Israël, dans l'Ancienne Alliance, est un type de l'Église. Israël est une nation au sein de laquelle il y a des Israélites qui ont la foi, qui sont fidèles au Seigneur, mais aussi au sein duquel il y a beaucoup d'Israélites qui n'étaient pas croyants, pas, je dirais, pas convertis. En plus, Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, mais ce salut de l'esclavage en Égypte n'est qu'un type du salut avec un grand S. Et d'ailleurs, le prophète Michée au chapitre 7, et puis Ésaïe aussi, fait bien de la sortie d'Égypte, de la délivrance de l'esclavage en Égypte, un type de la délivrance de l'esclavage du péché. Et donc, Israël, en tant que peuple sous l'Ancien Testament, a bénéficié d'un salut typologique, alors que l'Église est le véritable peuple de Dieu qui bénéficie du salut. Et l'Église est constituée uniquement des véritables croyants.
Alors, si on résume votre propos jusqu'à présent, on peut aligner en trois catégories les différentes positions que vous avez mentionnées. Là, on pourrait faire peut-être des nuances ici et là, mais pour le bénéfice et la simplicité de la présentation, je pense qu'en trois catégories, c'est une bonne approche. Et ça se situe beaucoup comment on va relier les deux testaments sur le plan de la continuité et de la discontinuité. Donc, la continuité plus radicale, elle réformée ou finalement Israël, l'Église, il y a comme une identité entre les deux. Et finalement, l'ecclésiologie provient beaucoup de l'Ancien Testament. Rupture radicale, discontinuité avec le dispensationalisme. L'Église n'est pas du tout dans l'Ancien Testament. Elle surgit et puis donc c'est un point de rupture. Et l'approche que vous préconisez, qui est aussi celle que je défends, il y a une espèce de continuité, de discontinuité. Tout n'est pas continu, tout n'est pas en rupture non plus, mais c'est surtout par le biais de la typologie où l'on voit le rapport de continuité entre Israël et l'Église, pas pour une théologie de remplacement, pas du tout. Mais finalement, les païens joignent Israël dans l'héritage qui leur était promis. Par contre, vous dites, c'est ça, que le salut dont Israël jouissait sous l'Ancienne Alliance était surtout typologique. Vous affirmez, je présume, qu'il y avait aussi le salut qu'on a sous la Nouvelle Alliance, mais qui était déjà donné par avance, le salut qui consiste dans le pardon des péchés, qui n'était pas en vertu de l'Ancienne Alliance, mais qui était déjà offert sous la forme des promesses?
Alors, oui, c'était un point que je voulais ajouter. Donc, sous l'Ancienne Alliance, il y a les Israélites qui ont la foi, qui sont fidèles et qui bénéficient du salut par anticipation sur la nouvelle alliance. Et donc, ce qui ressemble sous l'ancienne alliance à, ou ce qui anticipe, si vous voulez, l'Église sous l'ancienne alliance, c'est le reste des Israélites fidèles. Sauf que ce reste n'est pas organisé en Église. Il est au sein du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Il n'y a pas d'institution qui regroupe uniquement les Israélites fidèles au Seigneur. Donc, ils sont là, mais c'est à partir de la Pentecôte que l'Église naît, l'Église qui est l'ensemble des véritables croyants.
Amen. Ouais, ben voilà, c'est la lecture que je fais aussi, si on peut appeler les sauvés de l'Ancien Testament, l'Église, il faut le voir comme étant le reste dont l'apôtre Paul nous parle dans Romains, c'est dans Romains 11 ou Romains 10, où il commence à parler du reste élu selon la grâce, qui donc n'était pas encore organisé en tant qu'Église avec les ordonnances de la Nouvelle Alliance, mais qui a part à ce salut eschatologique qu'on a en Jésus-Christ, parce que la grâce de la Nouvelle Alliance était déjà révélée par les promesses, par les types, et comme c'était certain qu'elle était garantie par la parole de Dieu et que le médiateur allait être parfait, étant Dieu lui-même, il ne pouvait pas échouer, il pouvait déjà donner par avance l'héritage éternel promis, même si le sacrifice qui les garantit n'avait pas encore été accompli. Je pense que c'est la juste exégèse d'Hébreux 9.15 qui présente comme héritier des grâces de la Nouvelle Alliance tous ceux qui ont été sauvés, même avant que le médiateur de la Nouvelle Alliance vienne. Est-ce que, sur cette première question, sur les différentes visions, il y a autre chose que vous voudriez ajouter?
Non, je pense que j'ai dit l'essentiel.
Alors dans votre...
Un élément que je pourrais ajouter, c'est sur le rôle des sacrifices, par exemple, puisqu'il est dit que l'Israélite qui offre les sacrifices reçoit le pardon de Dieu. Alors, à mon avis, les Israélites qui n'avaient pas une foi véritable recevaient un pardon typologique. C'est-à-dire que cela leur permettait de subsister au sein du peuple de Dieu typologique, qui était Israël. Mais ils ne recevaient pas le véritable pardon. Par contre, les Israélites qui observaient, qui offraient ces sacrifices avec foi, eux recevaient, par anticipation sur la Nouvelle Alliance, le véritable pardon qui donne accès à la relation avec Dieu et puis au salut avec un grand S. Mmh. Donc, ça montre aussi comment Israël est un peuple de Dieu typologique, ses institutions sont typologiques. L'Épître aux Hébreux souligne que ce sont des types de la réalité qui vient par Jésus-Christ. Les croyants véritables de l'Ancienne Alliance bénéficiaient de ces réalités par anticipation sur la Nouvelle Alliance, mais pas tous les Israélites.
Mmh. Oui, je pense que c'est une distinction qui peut nous servir aussi pour réfuter la notion de mixité de l'Église. Bon, on croit qu'il y a une certaine mixité par des fausses professions de foi, qu'il y a des faux croyants qui se retrouvent dans l'Église visible. Mais l'Église de la Nouvelle Alliance n'est pas mixte par nature. Elle est mixte de fait, mais pas de droit. Et parfois, donc, dans l'ecclésiologie réformée pédobaptiste, on va prendre le fait qu'en Israël, il y avait des gens qui étaient là seulement, qui bénéficiaient de l'administration externe visible des sacrifices sans avoir le vrai pardon de leurs péchés parce qu'ils n'étaient pas sauvés, c'était valide dans une alliance typologique avec des sacrifices qui n'étaient pas efficaces pour procurer la rédemption. Mais sous la Nouvelle Alliance, où il n'y a plus de sacrifice d'animaux, où il y a seulement le sacrifice de Christ, on ne peut pas seulement l'avoir de façon externe ou typologique. On l'a ou on ne l'a pas. Et donc, ceux qui professent faussement la foi ne sont pas membres de cette nouvelle alliance et donc et n'ont pas un droit naturel à ces ordonnances comme pouvaient avoir les Israélites. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ecclésiologie?
Ils peuvent paraître être membres, mais ils ne sont pas réellement membres. Et je dirais même, ils ne sont pas réellement membres de l'Église locale. Et là, je m'appuie sur le texte d'1 Jean 2, où Jean parle de mauvais enseignants, donc il affuble du titre d'Antichrist, en disant « ils étaient parmi nous ». Donc, ils ont été dans la communauté chrétienne. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient pas sortis du milieu de nous. Les inconvertis n'ont pas droit de citer dans l'Église ni dans les Églises. Mais il se trouve que parfois ils sont là.
Oui, exact. Alors, si on revient à Israël, en tant que peuple d'alliance, constitué par l'ancienne alliance, et donc, ce n'est pas une alliance qui procure le salut éternel, c'est plutôt une alliance qui donne des grâces temporelles, terrestres et typologiques du salut à venir. Mais pourquoi est-ce que Dieu finalement a fait cela? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël dans son plan par rapport aux autres nations et qui lui a donné un statut unique et exclusif qu'il n'a pas donné aux autres peuples?
Alors, je dirais deux choses. Donc, la première, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit que des gens de tous les peuples de la terre seront bénis par son intermédiaire ou enfin, à travers lui et sa descendance. Et en fait, Dieu a choisi ce peuple comme récipiendaire de sa révélation. Et comme le peuple par lequel devait venir le Messie, qui est descendant d'Abraham et par qui des gens de tous les peuples peuvent recevoir la bénédiction du salut. Alors ça, c'est le premier point. Donc Israël a joué un rôle dans l'histoire du salut à cet égard. C'est par Israël qu'est venu le Messie et déjà, la révélation de Dieu a été donnée au départ à Israël. Elle nous est transmise, elle est transmise ensuite à l'Église. Le deuxième point, c'est que Israël est en fait un modèle réduit de l'humanité. Dieu fait alliance avec Israël, il donne sa loi à Israël, donc assorti de sanctions, des bénédictions si Israël obéit, des malédictions s'il désobéit. L'histoire d'Israël, du peuple dans son ensemble, globalement, est en fait une histoire d'infidélité à Dieu, à part quelques périodes un peu plus lumineuses. Mais cette histoire d'Israël démontre l'échec de ce peuple à obéir à la loi de Dieu. Or, l'échec d'Israël, c'est l'échec de toute l'humanité. Mais Dieu démontre dans l'histoire cet échec et l'incapacité de l'être humain à observer sa loi. Et donc, le besoin du salut qui vient par Jésus-Christ. Et à mon avis, c'est ce que Paul développe dans l'Épître aux Galates. Et donc, Israël est comme le prototype de l'humanité. Dieu montre quelle est la condition de toute l'humanité dans l'histoire d'Israël et le besoin de salut pour l'humanité, pas seulement pour Israël.
C'est très intéressant cette perspective, je trouve, sur le peuple d'Israël. Je ne sais pas si dans votre théologie, vous adhérez à ce qu'on appelle l'alliance des œuvres, que certains appellent l'alliance de la création, où Dieu donc fait alliance avec Adam, le premier homme, qui est représentant de tous les hommes. Et donc sa chute entraîne l'entrée du péché dans le monde et de la mort. Et ce que Adam finalement avait été placé dans cette alliance-là dans une probation où il devait, par l'obéissance, obtenir l'immortalité et l'incorruptibilité s'il avait gardé la parole de Dieu fidèlement. Il échoue. Et puis, cette période avec Adam, elle est très brève. Ce n'est pas une longue économie. Mais Dieu va utiliser une sorte d'Adam typologique en Israël et ce qu'on appelle la republication de l'Alliance des œuvres, où il prend ce peuple qui anticipe à la fois ce que le Christ va faire, mais Israël sert pas seulement à regarder vers les temps à venir pour la venue du Messie, mais il nous sert aussi à comprendre la chute de l'humanité en Adam, où il reçoit en héritage par pure grâce la terre promise, qui rappelle le jardin d'Éden, un pays découlant de lait, de miel. Et il y a des conditions à observer. Et Dieu sait très bien que bon, Israël va échouer, comme vous le dites. C'est dans un peu pour montrer à l'humanité son incapacité face au péché d'obtenir la vie. D'obtenir la justice par le biais de la loi qui dit « fais cela et tu vivras », et l'homme en est incapable, et tout ce qu'il peut obtenir finalement, c'est la malédiction de la loi par ses justes rétributions, et la seule option qui lui reste, c'est de se tourner vers celui qui va accomplir la loi, celui qui est le juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce parallèle entre Adam et Israël?
Oui, je n'y avais pas pensé, mais on peut le faire, effectivement. Par contre, ce que vous dites, ça me conduit à préciser une chose. Une des divergences que j'ai par rapport à la théologie de l'Alliance, c'est que je considère que l'Alliance du Sinaï est une alliance qui est basée sur un principe de justification par les œuvres. C'est Lévitique 18:5, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Absolument, c'est la perspective que j'ai également. Contrairement, en fait, il y a différents courants à la fois chez les réformés presbytériens ou pédobaptistes sur l'interprétation de l'alliance du Sinaï ou l'alliance mosaïque. Mais moi-même, je me définis comme un réformé baptiste, et chez les baptistes, au XVIIe siècle, il rejetait un peu cette notion d'une alliance de grâce uniforme et seulement sous deux administrations. Il voyait plutôt que l'alliance de grâce est équivalente à la nouvelle alliance qui a été révélée dans l'Ancien Testament, mais seulement accomplie lors de la venue du médiateur. Mais que l'ancienne alliance, donc, était une alliance autre qui était qui s'apparentait davantage à une alliance de la loi, comme vous dites, avec les conditions à être remplies pour que la bénédiction vienne. Donc, une alliance conditionnelle.
Oui, oui, tout à fait. Et je dirais que les croyants de l'ancienne alliance ont été sauvés non pas en vertu de dispositions de l'ancienne alliance, mais par anticipation sur les dispositions de la nouvelle alliance. Et donc, je crois qu'il y a un contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance, l'ancienne étant basée sur un principe de justification par l'obéissance à la loi, alors que la nouvelle est basée sur un principe de justification par grâce, et je crois que c'est le sens de Galates 3 et 4.
Amen, amen. C'est tout à fait la lecture que je fais. Également, tout en adhérant aux catégories historiques qu'on retrouve dans les grandes confessions réformées, d'alliance des œuvres, d'alliance de grâce, sans embrasser, là, c'est ça, de façon uniforme, là, cette théologie des alliances. Mais donc, vous nous dites que le but d'Israël, c'est à la fois d'amener la postérité promise qui va sauver non seulement les Israélites, mais qui sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre, la postérité d'Abraham, et puis on remonte avant Abraham à la postérité de la femme, et en même temps d'être un microcosme de l'humanité. Mais alors, si on se concentre sur Israël lui-même, en quoi consistaient les promesses que Dieu a faites à ce peuple? En particulier, il a échoué finalement. On voit avec l'exil que ce n'est pas la bénédiction qu'Israël a moissonné pour avoir été fidèle à l'Alliance. Dieu est patient, Dieu a enduré longtemps leur infidélité, mais a annoncé aussi que l'heure du jugement était venue à l'époque du prophète Jérémie, où en raison de leur infidélité, ils sont déplacés de ce pays promis, de cette terre.
Avant ça, il y a le jugement sur le royaume du Nord.
Oui, ben ouais, voilà, je fais des raccourcis, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est comme si Dieu, finalement, se concentre sur une des tribus, puis les 10 autres qui tombent dans l'infidélité sont déjà châtiés par le peuple assyrien en 722, avec une déportation. Mais le même sort va arriver aux Judéens, il y a quelques décennies plus tard, sous le coup des Babyloniens qui les transportent. Mais ce n'est pas la fin de l'alliance que Dieu a avec ce peuple, bien qu'ils sont sous la condamnation, on pourrait dire la malédiction, ou les malédictions du Deutéronome 28 ou 27, 28, qui anticipait ces malédictions en cas de désobéissance. Mais tout en recevant ce jugement, Dieu annonce une restauration glorieuse qui va suivre l'exil. Et là, la question qu'on se demande, c'est est-ce que ces promesses se sont accomplies après la fin de l'exil, lorsqu'Israël est revenu en terre promise, parce qu'elles semblent être vraiment plus glorieuses que ce qui est arrivé dans l'histoire, ou est-ce qu'il faut attendre un accomplissement futur qui n'est peut-être même pas encore arrivé? Alors, comment est-ce que vous lisez ces promesses de restauration au vu de l'alliance que Dieu a avec Israël?
Alors, vous venez de mentionner les sanctions de l'alliance dans Deutéronome 28. Les malédictions se sont accomplies, mais Dieu ne laisse pas tomber les bénédictions. Et les prophètes annoncent l'accomplissement des bénédictions prévu dans Deutéronome 28. Alors, il développe, bien sûr, ça va bien au-delà, mais c'est quand même ça. C'est l'accomplissement des bénédictions que Dieu avait donc énoncées dans Deutéronome 28 et dans Lévitique, je crois que c'est 26. Alors, chez les prophètes, il y a tout un programme. Les prophètes annoncent le retour de l'exil. Mais ils annoncent aussi la restauration du royaume de David sous l'égide d'un roi issu de la postérité de David. Ils annoncent le don du Saint-Esprit pour l'ensemble des membres du peuple de Dieu, le Saint-Esprit qui va transformer ces Israélites infidèles à Dieu, transformer leur cœur pour qu'ils vivent selon la volonté de Dieu, qu'ils accomplissent ses lois. Et puis, il y a des promesses. Donc, le règne du Messie sera un règne de justice. Il y a des promesses de bénédiction matérielle sur la terre pour le peuple de Dieu. Les prophètes, très tôt dans l'histoire de la révélation par les prophètes, annoncent que ce n'est pas tout Israël qui va bénéficier du salut. C'est un reste seulement qui sera sauvé. Et ça vient très tôt, on pourrait le montrer chez Joël, mais aussi chez Michée, chez Ésaïe, et puis ensuite c'est repris par les prophètes qui viennent ensuite. Et puis, contrairement à ce qu'enseigne le dispensationaliste, il est aussi annoncé que des gens d'autres peuples vont se joindre au peuple d'Israël, se convertir, apprendre les lois de Dieu, c'est Ésaïe 2 et Michée 4, et vont avoir part aux mêmes promesses de transformation par le Saint-Esprit, et donc vont être incorporés au peuple. En l'exil présente tout ça comme un paquet, un tout, comme un ensemble. À partir de l'exil, Ézéchiel et Daniel commencent à révéler que, en fait, ça ne va pas se faire d'un coup. Il y aura d'abord le retour de l'exil dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps seulement, le don de l'esprit, ça c'est Ézéchiel 37, où donc c'est cette fameuse vision des ossements desséchés, et ces squelettes retrouvent la vie en deux étapes. Il y a d'abord une première étape où les corps sont reconstitués, ça correspond dans le contexte au retour de l'exil, puisque les squelettes représentent les Israélites en exil et dans le contexte. Donc, les corps sont reconstitués, mais ils n'ont pas encore de vie. C'est le retour de l'exil. Et puis après, il y a le Saint-Esprit qui souffle et qui communique la vie. Mais ça se fait en deux temps. Et ce n'est pas au moment du retour de l'exil que ça devait se produire. Et avec Daniel, les choses se produisent, se précisent davantage encore. Au chapitre 9, Daniel bien voit que l'empire babylonien est tombé, est remplacé par l'empire perse, et il prononce une longue prière pour demander à Dieu d'intervenir, d'accomplir ses promesses de restauration. Puisque l'exil devait durer 70 ans, selon les prophéties de Jérémie, on arrive au terme de cette période, Daniel demande à Dieu d'accomplir ses promesses. Et c'est là qu'il reçoit une nouvelle révélation. Oui, les Judéens vont pouvoir rentrer au pays, mais il faudra 70 septaines d'années pour que le salut eschatologique vienne, pour que les péchés soient expiés, pour que vienne le Messie, en fait, et que la justice éternelle soit instaurée. Et donc, la deuxième étape, c'est la venue de Jésus, la conclusion de la nouvelle alliance, le salut accompli par Jésus. Mais ce n'est pas terminé, parce que la justice n'est pas encore établie sur la terre. Les croyants véritables sont appelés à vivre selon la justice, à réaliser aussi dans leur vie communautaire l'idéal de paix qui était annoncé par Ésaïe 2, par Michée 4. Et Jésus, d'après Éphésiens 2, a accompli à la croix les conditions nécessaires pour que cette paix soit instaurée entre juifs et non-juifs. Mais ensuite, Éphésiens 4, nous sommes appelés à le vivre dans la communauté chrétienne. Malheureusement, c'est bien imparfait encore, même si on commence à le vivre, mais ces promesses de salut s'accompliront dans leur plénitude quand le Seigneur reviendra. Elles s'accompliront sur la nouvelle terre, qui est une terre bien matérielle, qui est en fait la terre actuelle, qui va être renouvelée, ressuscitée. Et là, la justice sera établie de manière pleine et entière, de manière parfaite, de même la paix. Aussi, donc, les promesses de bénédiction matérielle vont s'accomplir. Et là, je m'inscris en faux contre ceux qui veulent spiritualiser ces promesses de bénédiction matérielle. Non, ces promesses de bénédiction, elles vont s'accomplir sur une terre bien matérielle, mais quand le Seigneur reviendra. Et donc, les promesses de salut eschatologique s'accomplissent selon un processus qui commence avec la première venue de Jésus, qui se déroule tout au long de l'histoire qui suit et qui s'achèvera lorsque le Seigneur reviendra et instaurera les réalités définitives avec la nouvelle terre et la résurrection, évidemment.
C'est vraiment excellent, votre présentation. En fait, je trouve que ça répond à toutes les difficultés qui sont souvent soulevées, entre autres par le point de vue dispensationaliste, qui, considère que souvent l'interprétation qu'on fait des passages des prophètes qui annoncent la restauration est problématique parce que si on considère juste le retour de l'exil comme étant l'accomplissement de ses promesses, c'est bien en deçà de ce qui est entrevu. Si on, comme vous dites, on a tendance à dire mais ça ne parle que du salut ou que d'une restauration spirituelle, c'est peut-être un peu capillotracté où on pousse ou on spiritualise excessivement. Mais en fait, il y a comme trois temps. Il y a d'abord un accomplissement historique d'une première restauration où Dieu n'a pas abandonné Israël, le ramène dans sa terre, mais ce n'est pas encore le paradis. Il y a un élément spirituel qui vient avec ce salut qu'on obtient en Christ qui est d'abord, qui est pas matériel, là, c'est une nouvelle naissance, c'est un changement de cœur, ça commence à l'intérieur, mais qui va culminer à son retour en gloire dans une transformation complète des cieux et de la terre et de tous ceux qui vont les habiter. Et là, on a comme ce point culminant dans de ce qui était annoncé chez les prophètes. Et finalement, c'est pas un millénium futur, mais c'est déjà quelque chose qui est commencé en Christ, dans ce salut, mais qui va culminer lors de sa parousie et qui est rien de moins finalement que la résurrection d'entre les morts. Vous attendez pas finalement l'accomplissement, un entre-deux entre le salut en Christ et la résurrection finale? Est-ce que vous avez une place pour un millénium ou vous pensez que l'aboutissement ultime de ces promesses-là, c'est la résurrection finale? Et si c'est votre lecture, comment donc vous expliquez dans certaines prophéties qu'il semble dire que celui qui mourra, par exemple, à 100 ans sera vu comme étant maudit et que c'est parfois là où on peut pas le voir comme étant la résurrection finale parce que la mort est mentionnée et encore des éléments qui appartiennent à l'ancienne création? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour cette semaine. Il faudra revenir la semaine prochaine pour entendre la réponse du professeur Romerovski. J'espère que la première partie de cette discussion vous a plu. Le meilleur, je dirais pas que le meilleur est à venir, mais il reste de très bonnes choses en plus de ce que nous avons déjà entendu, qui était excellent. Donc, le sujet la semaine prochaine, c'est la partie 2 sur le plan de Dieu pour Israël avec Sylvain Romerovski. Merci d'être à l'écoute. Merci de votre soutien par vos dons. N'hésitez pas à nous aider si le cœur vous en dit. Et puis, merci également de laisser des commentaires, d'interagir. C'est toujours intéressant de partager avec vous, d'avoir un peu vos points de vue, vos retours, vos suggestions. Et puis, voilà, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous présente comme professeur d'Ancien Testament à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, ou j'ai pas le bon
Alors
titre?
là, je suis à la retraite.
OK.
depuis cette année scolaire, en fait.
Ah oui, ok, c'est nouveau là.
Oui, mais sinon, j'ai enseigné pas mal de cours de l'ancien, sur l'Ancien Testament, mais aussi l'Épître aux Romains, l'Apocalypse, l'herméneutique, l'exégèse et une partie de la doctrine.
Ok, donc vous avez
Donc,
un
je suis un généraliste.
professeur généraliste. Ok. Vous êtes, est-ce que vous allez toujours enseigner à l'occasion à Nogent-sur-Marne ou...
Oui, alors hier, j'ai donné mon cours sur l'Épître aux Romains.
Donc vous n'avez pas pris votre retraite.
Eh bien, je travaille énormément.
Oui, c'est ça.
Parce que, bon, j'ai plus beaucoup, je n'ai que quelques cours, mais j'écris.
Donc, on peut dire professeur émérite, sinon.
Voilà.